Bonjour à tous et bienvenue à chacun, où que vous soyez. Nous sommes heureux d'être en communion avec vous en ce dimanche de l'Ascension. Alors je ne sais pas si on peut parler de dimanche de l'Ascension, puisque l'Ascension c'est normalement le jeudi, 40 jours après Pâques, mais je le dis quand même, dimanche de l'Ascension. Aujourd'hui, oui, nous célébrons l'Ascension, et c'est une célébration un petit peu particulière, puisque l'Ascension, c'est en fait un départ. Et un départ équivaut bien souvent à une absence. Et une absence, ce n'est pas vraiment réjouissant. Nous parlerons de cette Ascension, de ce départ, de cette présence-absence, lors de la prédication sur le sujet dans le livre des Actes. Mais j'aimerais commencer par une histoire. Un jour, dans un village isolé, un pasteur fait passer l'information. Il a une déclaration urgente et importante à faire à ses paroissiens. Il leur donne rendez-vous à 16h30 dans le temple. À l'heure dite, ils sont tous venus pour entendre ce que le pasteur a à leur dire. Les hommes ont quitté leur travail plutôt que d'habitude. Les mères de famille ont laissé leurs enfants. Les commerçants ont fermé leurs boutiques. Les anciens ont interrompu leur partie de cartes. Le temple est plein. Le pasteur monte en chaire, il ouvre une enveloppe et il lit la déclaration suivante. « Mes chers amis, voilà ce que je voulais vous dire de toute urgence. Il y a un Dieu dans notre monde. » Il est compatissant et en plus, il fait grâce. Alors l'histoire s'arrête là et elle ne nous dit pas si les gars du village ont été contents d'avoir interrompu leur partie de cartes pour entendre cette nouvelle qu'ils avaient peut-être déjà entendue. Mais tant pis. Moi j'aime ce pasteur qui fait, comme on dit aujourd'hui, il fait un buzz. Avec les moyens du bord, pour nous rappeler qu'il y a un Dieu dans ce monde, et que ce Dieu est compatissant, qu'il est bienveillant, et qu'il fait grâce. C'est quelque chose qui est relativement connu, mais il me semble qu'il faut de temps en temps, comme le pasteur du village, en faire le redécouvrir quotidiennement, en faire un événement quotidien, mais toujours exceptionnel. Toute affaire cessante, redécouvrir que Dieu est le Dieu de la grâce. Être toujours surpris par l'espérance qu'il y a en lui, être toujours émerveillé par sa bienveillance, être toujours interpellé par sa fidélité. Il faut le reconnaître qu'on a bien souvent le nez dans le guidon, hein, dans la vie de tous les jours, occupé à ceci, à cela, à faire nos affaires, et il faut faire nos affaires. Enfants, travail, répondre aux mails, les relations sociales. Mais il nous faut aussi relever la tête et redécouvrir la grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu. C'est la fameuse chesed en hébreu dans l'Ancien Testament qui veut dire bonté, bienveillance, miséricorde, grâce, accueil, faveur, fidélité. Cette recette de Dieu qui parcourt tout l'Ancien Testament, tout comme l'agapé de Dieu, cet amour inconditionnel, parcourt le Nouveau Testament. Et bien que cette recette de Dieu et que cette agapé de Dieu parcourt aussi nos vies. Cela me fait penser au psaume 63 que je vous lis. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, qui manque d'eau. Ainsi, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Ta bienveillance vaut mieux que la vie. La grâce de Dieu vaut mieux que tout ce qu'il y a de plus précieux à nos yeux et aux yeux de Dieu, la vie. Non pas une comparaison, non pas un jugement de valeur, mais une déclaration, c'est ta bienveillance qui nous fait vivre. Et nous pouvons lever les mains vers Dieu en pensant à cette bienveillance et sa grâce. Vous pouvez le faire chez vous, quelques instants. Et puis nous pouvons prier. Seigneur, merci de nous rassembler ce matin dans ta présence. C'est par ta grâce que nous sommes réunis. Donne-nous, Seigneur, où que nous soyons et quelle que soit notre situation, oui, donne-nous de nous laisser surprendre par toi, par ta bonté qui se renouvelle chaque matin et ce matin en particulier. Surprends-nous, Seigneur, par l'immensité de ton amour pour chacun d'entre nous. Rappelle-nous ta fidélité qui nous accompagne sur tous les chemins de notre vie, que ce soit la petite route sinueuse ou la grande route qui va en ligne droite. Donne-nous de nous laisser interpeller tout à nouveau par ta parole. Cette parole qui rafraîchit, cette parole qui donne la vie et qui nous mobilise pour être à notre tour des hommes et des femmes qui vivent et proclament ta bienveillance autour d'eux. Dans le nom de Jésus, nous te prions, l'homme de toute grâce. Amen. Nous allons chanter un chant qui s'intitule « Hosanna », qui n'est peut-être pas tout à fait de saison, mais qui nous parle de tourner les yeux vers Dieu alors que nos cœurs soupirent après lui, comme dans le psaume 63. Ce chant qui nous dit « En te voyant, en regardant à ta bienveillance, nous retrouvons la force de vivre. »
Sont restaurés. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as pu profiter du beau temps cette semaine, peut-être pour aller à la plage. Après la pluie de la semaine dernière, ça faisait du bien d'avoir un ciel bleu, du soleil et de la lumière. Quand il y a du soleil, tout est plus beau. En parlant de lumière, est-ce que tu sais ce que Jésus en a dit ? Voici ce qu'il a dit. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Jésus dit qu'il est la lumière. Réfléchis un peu. À quoi est-ce que ça te fait penser, la lumière ? Qu'est-ce que ça fait, la lumière ? Avec la lumière, on voit clair. La lumière enlève la peur du noir. La lumière rend les choses plus belles, plus éclatantes. La lumière donne la vie, comme l'a dit Jésus. Elle fait pousser les plantes. Tu te rappelles tes petites lentilles qui ont peut-être poussé grâce à la lumière. Jésus est la lumière parce qu'il nous aide à voir clair. Il enlève la peur, il nous fait grandir, il rend la vie plus belle. Et si on prenait quelques minutes ce matin pour lui dire merci ? Voici ce que tu peux dire si tu veux. Et chacun de la famille peut le dire à son tour, tout haut. Merci Jésus pour la lumière que tu mets dans ma vie. Oui, Jésus dit que cette lumière, il l'a mise en toi et en moi. Vous êtes la lumière du monde, dit Jésus. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. La lumière n'est pas faite pour être cachée, mais pour briller devant tout le monde. Alors je vais te demander d'aller chercher plusieurs choses. D'abord, une lampe de poche, pas trop grande, de préférence. Un très grand bol, et puis aussi des Lego ou des Duplo. Puis, reviens ici. Entre-temps, tes parents peuvent mettre la vidéo sur pause. Et ils peuvent peut-être aussi aller chercher une bougie, une petite bougie chauffe-plat, par exemple. Alors maintenant, allume ta lampe de poche et fais-la briller un peu partout. Et maintenant, garde-la allumée et mets-la sous le bol. C'est idiot, non ? Ça sert vraiment rien, une lampe de poche sous un bol. Jésus dit, tu es la lumière du monde, ne cache pas ta lumière, ne la mets pas sous un bol, fais-la briller devant tout le monde. Alors comment faire briller cette lumière qui est en moi ? Ça, c'est à toi d'y réfléchir. Tu peux même demander à Jésus de te montrer comment briller cette semaine pour tous ceux qui sont dans la maison. Et pour t'aider à y réfléchir, tu peux prendre les Lego ou les Duplo, ou si tu n'en as pas, n'importe quelle petite boîte, et construire un support pour une lampe ou une bougie. Ça peut être une tour ou une petite maison, ou un chandelier ou un plateau. Quelque chose qui mettra la lumière plus haut, qui la montrera. Si tes parents le veulent bien et pensent que c'est assez solide, tu peux mettre une bougie dessus, comme une petite bougie chauffe-plat. Et pendant que tu fabriques ta lampe, pense à une chose que tu peux faire pour faire briller ta lumière. Et dis-la aux autres, une chose que tu peux faire pour que tout le monde voie ta lumière et pour que le monde soit plus beau.
Ma petite lumière, je la ferai briller. ma petite lumière, seule la ferait briller. Ma petite lumière, seule la ferait briller. Chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière.
Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller.
La lecture biblique est dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 9 à 14. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline, qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélée et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
C'était le récit de l'Ascension, et nous allons chanter maintenant « Les cieux célèbrent la gloire du ressuscité », parce que c'est Christ qui monte au ciel et qui peut recevoir la gloire. Et nous pouvons la chanter, cette gloire du ressuscité. Les cieux célèbrent la gloire du ressuscité.
Les cieux proclament la gloire du ressuscité.
Acte 1, scène 2, clap, silence, on tourne. Avec cette deuxième scène du film ou du livre des Actes des Apôtres ou des Actes de l'Église ou des Actes du Saint-Esprit, ce film que nous avons commencé la semaine dernière, avec cette deuxième scène, on assiste vraiment à une scène de film avec même des effets spéciaux. Jésus qui monte au ciel dans un nuage, on pourrait se croire dans le film « L'écume des jours » réalisé par Michel Gondry, l'adaptation du fameux roman de Boris Vian « L'écume des jours », un film qui n'est pas terrible du tout d'ailleurs, avec Audrey Toutou qui semble un peu perdue dans son nuage, comme vous le voyez dans le diaporama. Mais le réalisateur du livre des Actes n'est pas un rigolo, il s'agit d'un médecin, il est grec, il est bien éduqué, on nous dit qu'il a suivi des études supérieures, il s'appelle Luc, c'est aussi l'auteur du troisième évangile, et en plus il est un peu historien sur les bords. Et il s'attache aux faits, des faits qui sont avérés, et il s'informe auprès de témoins oculaires. Et dans notre texte que nous avons lu tout à l'heure, vous avez remarqué plusieurs allusions à la vue ou aux yeux. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel. Luc parle de ce que les gens ont vu de leurs propres yeux. Et ce qu'ils ont vu, c'est Jésus qui s'élève vers le ciel. C'est l'ascension de Jésus. Alors on pourrait se poser la question de l'importance de cet événement. Pourquoi fallait-il que Jésus soit élevé comme cela vers le ciel ? Jésus n'aurait-il pas pu disparaître tout simplement de manière invisible, en catimini, comme il l'avait fait déjà à plusieurs reprises depuis sa résurrection ? Il avait disparu, puis il était réapparu. Mais manifestement, non. Le récit nous parle d'une ascension publique et qui semble définitive. Les disciples ne vont plus le revoir parce qu'il s'élève vers le ciel deux fois dans notre texte. Il disparaît loin de leurs yeux, une nuée le cache. On note d'ailleurs la sobriété de la description, on est loin de la science-fiction. L'accent n'est pas mis sur le comment, mais sur le fait que Jésus rejoint le ciel. Alors attention, parlons un peu de ce ciel. Le ciel, ce n'est pas le lieu géographique, mais plutôt une autre dimension, comme me disait un ami scientifique à Pau. Le monde ne se limite pas à nos trois dimensions, il y en a d'autres qui restent à découvrir. Et puis, l'auteur, le théologien anglican évangélique, écossais, dont je vous parle depuis un certain temps, insiste pour dire que le ciel ne signifie pas le monde des idées, le monde des esprits ou le monde des âmes, comme dans la philosophie platonicienne qui influence encore trop souvent les chrétiens d'aujourd'hui. Le ciel comme un endroit un peu bizarre. Le ciel, c'est le monde de la présence de Dieu. Et N.T. Wright nous rappelle que ce ne sont pas deux mondes complètement séparés, la terre et le ciel. Il ajoute, et j'ai trouvé cela très intéressant, que le ciel est lié de façon tangentielle à la terre, de sorte que ce qui se trouve au ciel puisse être présent simultanément et partout et n'importe où sur la terre. Si je me souviens bien de mes cours de mathématiques et de géométrie, la tangente, c'est ce qui touche un cercle et une courbe ou une courbe sans se confondre avec elle. Mais il la touche ou elle la touche, la tangente la touche. Et celui qui s'élève vers le ciel à l'ascension, c'est Jésus qui est assis à la droite du Père, qui a reçu les pleins pouvoirs et qui vient toucher comme une tangente la terre de sa présence. Jésus est présent partout et en même temps sur la terre. Un autre théologien disait, avec Jésus, le ciel est indissolublement lié à la terre. L'ascension ne signifie pas que le Christ se détache du monde, mais au contraire que le ciel s'ouvre au monde des hommes, dont Christ est le représentant exemplaire. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, et je l'ai redécouverte cette semaine en préparant, c'est que Jésus, à l'ascension, ne s'est pas débarrassé de son humanité avant de monter au ciel. Il ne s'est pas défait de son enveloppe corporelle comme le papillon quitte sa chrysalide pour s'envoler. Non, c'est en tant qu'homme que Jésus a été élevé, pleinement homme dans son corps. Un théologien disait « L'incarnation n'est pas une idée vague et flottante, elle est un acte divin dont les conséquences sont permanentes. » Jésus est présent en tant qu'homme dans le ciel, dans son corps ressuscité, et il représente l'humanité, notre humanité. Et en tant qu'homme au ciel, il plaide pour nous, et il nous comprend, et il connaît nos faiblesses, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Il est là, présent en tant qu'homme, corporellement, et il est complètement en notre faveur. C'est une idée extraordinaire, mais tellement biblique, de savoir qu'un homme, comme vous et moi, est assis à la droite de Dieu, maintenant, et qu'il nous représente. Mais il n'est plus sur terre. Et l'ascension de Jésus veut dire absence pour ceux qui restent. Il disparaît à leurs yeux. Jésus n'est plus là, ils ne le voient plus. Et on peut imaginer l'effet de cette absence sur ses disciples qui avaient partagé sa route ou sa vie pendant 3 ans. Et je les imagine en train de se dire, bon, on va continuer, hein, mais ça sera quand même moins bien qu'avant. Moins bien qu'avant. On entend souvent cette phrase. Et on s'entend parfois dire aussi que ce serait quand même plus facile si Jésus était avec nous physiquement. Si nous avions des signes un petit peu plus concrets, un petit peu plus visibles, un petit peu plus matériels de sa présence, ce serait quand même mieux. Et la question se pose à nous comme pour les disciples, et c'est un peu le sujet de la prédication, comment vivre l'absence de Jésus ? Et ce qu'il faut d'abord dire bien fort, et c'est je crois le grand message de cet épisode de l'Ascension, c'est que l'absence ne veut pas dire abandon. Et les messagers de Dieu, les anges qui sont là, ne vont pas laisser la moindre ambiguïté alors que les disciples, un peu bêtement, gardent les yeux fixés vers le ciel alors qu'il n'y a plus rien à voir, un petit peu comme des gamins qui regardent leur avion de papier qu'ils ont fabriqué et qu'ils ont lancé. Les anges vont dire aux disciples, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» C'est comme s'ils disaient, « Circulez, il n'y a rien à voir. » Mais il y a tout à faire. Et ils vont dire quelque chose par rapport à l'absence de Jésus, ils vont leur dire que cet homme qu'ils ont vu s'élever, eh bien, il va revenir. Et c'est la première réponse à la question de « Que faire pour vivre l'absence de Jésus ?» Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. De la même manière et la même personne, Dieu le Fils, reviendra dans sa gloire pour instaurer et renouveler les cieux et la terre. De nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera, où ce sera en quelque sorte le ciel sur la terre. Où il n'y aura plus de deuil, plus de violence, plus de mal. Vous savez, la Bible nous enseigne dans sa totalité le retour de Jésus. Et les anges le rappellent à ses disciples qui se demandent comment vivre l'absence de leur maître. Et vous savez qu'il y a un terme en grec pour décrire ce retour de Jésus qui s'appelle la parousie, qui était un terme général utilisé pour parler de l'entrée d'un général victorieux dans la ville, avec toutes les acclamations, avec tous les hola. Et nous attendons l'entrée ou le retour de Jésus dans notre monde, de la même manière. Il sera victorieux sur les forces du mal, victorieux sur tout ce qui nous tire vers le bas, le péché sous toutes ses formes, les virus dans tous leurs états. C'est le retour de Jésus et nous sommes dans cette attente entre l'ascension et son retour, une période d'attente active où on met les mains dans le cambouis, où on se décarcasse, où on est témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes, où on cherche à établir son royaume de justice. Une attente active du retour de Jésus. Avec une question quand même. L'attendons-nous vraiment ? Jésus lui-même posait la question, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des gens qui auront gardé confiance en lui? Est-ce qu'il va trouver des gens qui attendent et qui s'attendent à son retour? Va-t-il me trouver, moi, dans un état de confiance? Et pour revenir à notre question de comment vivre l'absence de Jésus, on pourrait se poser la question, quel est l'impact de cette promesse du retour? Eh bien, si je prends l'illustration de l'attente, par exemple, d'un événement spécial, un anniversaire, une fête, Noël, quand un enfant, et moi je me souviens, c'était mon cas, attend un événement de ce genre, on est très excité, c'est sûr, mais en même temps, l'enfant anticipe la fête. Il est déjà dedans, et même parfois, l'attente est encore meilleure que la fête. Et pour ce qui concerne le retour de Christ, il me semble que l'attente est déjà une anticipation de l'événement et que cette anticipation permet déjà de vivre différemment ce présent. C'est, je crois, ce que disent les anges. Il est parti, mais il revient. Et la perspective de son retour change beaucoup de choses dans la manière de vivre ce présent et de vivre cette absence physique de Jésus. À méditer. Et puis, deuxième réponse de cet épisode par rapport à la question de l'absence de Jésus, cette deuxième réponse a à voir avec la communauté des disciples. Ce petit groupe qui a assisté à l'ascension et qui est renvoyé à Jérusalem, bon, c'est pas très loin, et à leur chambre haute, où ils ont déjà été appelés à attendre la venue de l'Esprit. L'Esprit, le grand acteur du livre des Actes, où ils sont appelés à l'attendre et à l'attendre ensemble. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude, c'était Pierre, Jean, Jacques, André, etc. Verset 14, d'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec aussi les frères de Jésus. Alors vous me direz, où se trouve la réponse à la question de comment vivre avec l'absence physique de Jésus? Eh bien, dans ce groupe de disciples de la chambre haute, dans ce rassemblement dans une grande pièce aménagée en terrasse, 120 personnes qui sont dans la prière tous ensemble. Jésus présent par son esprit dans cette communauté de croyants qu'on appellera très bientôt l'Église. Comment vivre l'absence physique de Jésus? Eh bien, la vivre en communauté. Non pas vivre l'absence physique de Jésus, mais vivre la présence de Jésus dans son Église, par son Esprit. Et ce n'est pas un concept. C'est une véritable présence, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, disait déjà Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18. Et puis ce n'est même pas une promesse, c'est une réalité, c'est une déclaration, et c'est une réalité de l'Église. On se souvient aussi que pour les églises locales de l'Apocalypse, Éphèse, Laodicée, etc., Jean, l'auteur de l'Apocalypse, dans un langage très symbolique, nous parle d'un homme qui marche au milieu des chandeliers. Les chandeliers, ce sont les églises. Et cet homme, c'est Jésus, qui marche au milieu d'elles. Il est présent au milieu de ces églises et au milieu, il est avec celles qui ont des problèmes, les églises qui ont des problèmes, qui sont les plus nombreuses d'ailleurs, et celles qui en ont moins. Jésus est présent quand les chrétiens se rassemblent dans une chambre haute et qu'ils le font ensemble. Et je cite un commentateur, M. Marguerat. À l'invisibilité de Jésus répond la visibilité d'une communauté d'hommes et de femmes en prière. S'effaçant au monde, le ressuscité ouvre un espace dans lequel la communauté des croyants concrétisera sa présence cachée. Jésus présent dans son Église. Et dans cette communauté en prière, on remarque une chose en particulier, on remarque l'unité dans cette première assemblée. Alors il y a les anciens disciples et puis il y a les nouveaux et des nouvelles, les quelques femmes qui ont déjà suivi Jésus. Et puis il y a Marie, la mère de Jésus, puis il y a les frères de Jésus qui ont mis un petit peu de temps à comprendre que leur frangin avait les paroles de la vie éternelle, mais qui sont là, et ils sont tous là, 120 au total, dans la prière, d'un commun accord, nous est-il dit dans le texte, ou d'un seul cœur, et ça c'est beau à voir. Et Luc, tout au long du film des Actes, va insister sur ce commun accord, sur d'un seul cœur, sur l'unité des premiers chrétiens. Alors on pourrait dire que Luc idéalise un petit peu le tableau, et c'est parfois l'impression qui se dégage du récit qu'il nous fait de sa première église. Et par comparaison, on pourrait se trouver un petit peu loin du compte, ici et maintenant, sur la croisette. Or, on peut imaginer quand même que sur les 120, il y en ait deux ou trois qui n'étaient pas tout à fait dans le coup, hein, pas tout à fait au diapason, qui pensaient à autre chose. Mais quand Luc nous parle d'unité, il parle d'une vision globale, il y a ce sentiment d'unité et Jésus est présent dans ce groupe de gens différents qui s'attendent à lui, qui prient ensemble et qui persévèrent dans la prière. On faisait remarquer que, en fait, ils sont là dans la prière alors qu'ils attendent la promesse de l'Esprit, cet Esprit qui va venir et qui va leur permettre d'être des témoins, la prière qui précède la mise en route. Et nous aurons l'occasion encore, dès la semaine prochaine pour la Pentecôte, de parler de cette mise en route. Mais alors que nous avons parlé de cette question d'absence ou de présence de Jésus avec l'ascension, présent par anticipation de son retour, présent dans la communauté, nous pourrions aussi nous souvenir de cette promesse de Jésus dans un autre évangile, au dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, qui nous parle aussi de Jésus qui a reçu les pleins pouvoirs, qui nous parle aussi d'être des témoins et de faire de toutes les nations des disciples, et qui nous dit également cette promesse ou cette déclaration formidable, « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et ça, c'est une promesse qui change tout. Alors que Jésus n'est plus là physiquement, qu'on se retrouve avec une bande de copains et quelques femmes à se demander ce qu'on va faire plus tard de sa vie, alors que tout était à faire et qu'on n'en a pas les moyens, alors qu'on vit des tempêtes, alors qu'on est dans la confusion, alors qu'on est dans l'adversité, Jésus nous dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous vraiment par mon esprit. » Et dans cette communauté de gens qui placent leur confiance en moi, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, non pas comme un mur qui arriverait droit sur nous, mais comme une porte ouverte. Je suis avec vous jusqu'à mon retour. » Et cette perspective du retour nous permet de vivre en sa présence maintenant en communauté. Il est déjà là. Oui, l'agneau est déjà là. L'agneau qui est assis à la droite de Dieu. Et nous voulons le chanter maintenant. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Chantons ensemble.
Élevé à la droite de Dieu, pour
Nous aurons maintenant notre temps d'offrande, où nous nous rappelons que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est une décision personnelle, une résolution, une décision personnelle pour aider l'Église à accomplir sa mission dans le monde, de témoigner de cet amour, de la fidélité, de la bienveillance de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous pouvez faire vos virements ou vos chèques à l'adresse qui vient sur le diaporama ou virements sur le compte qui s'affiche également. Et nous vous remercions de votre libéralité, de votre générosité, de votre fidélité dans ce domaine. Puis quelques annonces. Mardi 26 mai, comité Rio par Zoom. Vendredi 29 mai, groupe de maison Cannes par Zoom. Vendredi 31 mai, dimanche de Pentecôte. Toujours enregistré et sur le site. Alors qu'aujourd'hui même, alors je parle, c'est samedi, vient d'être levée l'interdiction de rassemblement des cultes. Et donc, on est déjà en train de réfléchir à comment organiser les cultes publics au 89 rue Georges Clémenceau, avec toutes les restrictions qui nous sont imposées. Donc nous avons une réunion du Conseil le mercredi 3 juin pour en parler. Et donc c'est un sujet de prière aussi, pour que nous puissions le faire en toute sécurité, avec toutes les restrictions imposées. Dimanche 28 juin, Assemblée générale de l'Église et des amis de l'Église. On a appris aussi que ce sera les élections municipales, le deuxième tour. Et donc ce sera en même temps, et ça il faudra peut-être revoir. Et puis une dernière annonce, alors notre week-end d'Église, le 10 et 11 octobre, à la pastorale Matania dans le Var. On vous invite à réserver ces dates, et puis on peut déjà vous signaler, et c'est une super nouvelle, que c'est Yves Pisan qui sera notre orateur pour ce week-end d'Église. À ne pas manquer, donc. C'est Georges Alba qui va nous accompagner pour la prière d'intercession.
Seigneur, nous lisons dans la Bible ces versets rafraîchissants qui disent « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis » ou encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais aussi que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aussi, c'est avec une pleine confiance que nous pouvons nous approcher de toi, Seigneur, et nous confier en toi, car tu nous as aimés le premier par ton sacrifice sur la croix. Non seulement aimés, mais rachetés. Devant cette œuvre parfaite, aide-nous, Seigneur, à lâcher prise pour nous en remettre totalement à ta personne aimante, mais aussi agissante. Nous voulons te remercier pour notre Église qui continue, malgré tout, de fonctionner grâce au concours des frères et des sœurs. Te remercier également pour la maison de retraite des Bougainvilliers dont tu as gardé les membres ainsi que le personnel jusqu'à ce jour. Nous voulons intercéder pour Carole Levasseur et Junie, et plus généralement pour nos frères et sœurs qui souffrent soit de maladie, soit de la situation critique que nous traversons, mais aussi à ceux qui ont des difficultés d'ordre financier liées à la conjoncture actuelle. Je te prie pour notre pays, que tu puisses donner de la sagesse à ceux qui en ont les responsabilités. Seigneur Jésus, je te prie de garder le cœur de chacun de tes enfants dans la paix et dans la confiance. Enfin, je voudrais terminer par cette prière de reconnaissance de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen.
Le Seigneur n'est pas enfermé dans un temple, ni dans un bâtiment, ni dans votre salon. Il nous a choisis pour y faire sa demeure. Il accompagne nos pas partout où nous allons. C'est à nous de le rendre présent pour les autres. C'est à nous de témoigner de son amour, de servir dans son royaume pour la justice, d'attendre activement son retour en prenant soin de la création. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Que sa paix nous habite, que sa force nous porte, que son amour nous guide. Allons dans la joie de sa présence. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, à bientôt.